Deuxième partie des vœux sur l'île Dieu, on parle de bien vivre ensemble en compagnie de Carole Charreau, maire de l'île Dieu et conseillère départementale. Bonjour.
Bonjour.
Ainsi que Anne-Claude Kabilic, première adjointe à la mairie de l'île Dieu. Bonjour.
Bonjour.
Les EHPAD, où en êtes-vous de ce projet de réhabilitation, Anne-Claude Kabilic?
Alors, les EHPAD, je sais que Carole et Nathalie sont venues en parler l'autre jour, donc...
C'était fin 2024.
Voilà, c'est
vraiment
ça.
Vraiment fin 2024.
Donc, comme vous le savez, donc, les EHPAD sont à bout de course. Donc, les chênes verts engrangent des déficits de son côté, Calypso engrange des déficits aussi de son côté. Les chênes verts ne sont plus aux normes de sécurité. Et suite à un nombre de résidents en baisse, donc le déficit s'accroît de jour en jour. Donc Carole a devait demander, comme elle l'a dit, au département de lancer une étude pour étudier les besoins spécifiques de la population en général, mais sur l'île, même à domicile. Donc cette étude nous a été restituée ce mardi. Donc on n'a pas... encore la restitution finale est affinée. Ils vont nous l'envoyer. Nous, ils nous ont évoqué les grands thèmes, mais bien sûr, ça va dans le sens qu'on avait pris, c'est-à-dire la fermeture progressive de Calypso. Donc, c'est la formule. Je voudrais rappeler quand même que c'est la formule EHPAD qui va fermer et non pas la résidence Calypso. On s'oriente justement vers une structure plus légère, style résidence senior. On n'a pas le terme exact, que ce serait une résidence autonomie, résidence senior. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui reste à définir pour le moment.
Résidence senior, il y aura une personne à l'accueil, en gros.
Est-ce qu'on voilà, peut dire ça comme ça? Voilà, c'est ça. Peut-être une personne la nuit, mais pour sécuriser, mais on ne sait pas exactement quand.
Donc, c'est encore pas finalisé?
Non, mais vraiment la partie médicalisée, donc ce ne sera plus un EHPAD. Donc, bien sûr que les résidents les plus dépendants et ceux qui le désirent devront être transférés aux chênes verts petit à petit.
Est-ce que vous avez commencé à parler à ces résidents de l'EHPAD Calypso qui vont être transférés ou s'ils veulent rester à Calypso, qu'il y aura moins de soins, moins d'aide?
On a été la semaine dernière rencontrer d'une part tous les agents et on a rencontré aussi les familles avec les résidents qui sont là-bas.
Les résidents, qu'est-ce qu'ils vous ont dit?
Alors, bien sûr, c'est très violent hein, de leur dire vous allez potentiellement devoir déménager. C'est quelque chose de violent à entendre.
Certaines personnes étaient là depuis très très longtemps.
Non. Très très longtemps, non, quand même pas.
Non.
Quelques années. Maintenant, il n'y a plus de gens qui restent 10, 15, voire 20 ans comme on a eu.
Ils préfèrent rester maintenant à domicile.
Bien sûr. La moyenne d'âge est de 90 ans en entrée. Donc, et là, les dernières entrées qu'on a faites, c'est entre 90 et 95 ans. Donc, et tant mieux, c'est ce qu'il faut. Donc bien sûr, ça a été très violent, mais il y en a qui le comprennent, il y en a qui le comprennent moins, donc il faudra les accompagner. Et voilà, il n'y a pas de deadline, donc ça va se faire au moins tout au long de l'année, et on sera là, les équipes aussi, pour accompagner les familles et les résidents, bien sûr.
Caro Chao.
Et puis, il faut dire aussi qu'il y a certains résidents qui voudront rester à Calypso et qui seront en mesure de rester. C'est-à-dire que, bien sûr, il faut prendre en compte leur sécurité. Même s'ils veulent rester et qu'ils ne peuvent pas, au niveau sécurité, au niveau soins, là, on les accompagnera pour faire ce transfert. Mais il y en a d'autres, hein, c'est vrai, qui pourront rester sur Calypso comme un logement à domicile.
Voilà, c'est ça, ouais, c'est ce que je voulais dire. Ceux qui veulent rester et qui le peuvent, ils pourront se faire accompagner par des organismes libéraux comme à domicile. Donc, ça pourrait être les infirmières libérales, des kinés, la DMR, ou autres structures. Et donc, on va travailler aussi avec ces autres structures parce que forcément, il y a peut-être un besoin accru. Et pour l'instant, ils n'ont peut-être pas le personnel adéquat. Donc, on va travailler avec eux. Et pourquoi pas, on réfléchit, et c'est ce qu'on disait avec le département hier et l'ARS.
Département de la Vendée, pour être clair.
Oui, c'est nos autorités tutelles,
l'ARS. Agence régionale de santé.
De santé, voilà. C'est eux qui financent pour les EHPAD la partie soins, hébergement et dépendance. Et du coup, on réfléchit, pourquoi pas, à la faisabilité, comme ça s'est fait dans d'autres communes, à une structure qui pourrait être portée par le CCAS, style pas une autre ADMR, entre guillemets, mais quelque chose de similaire pour voilà, pour aider les personnes à rester à domicile, on va dire, soit le plus longtemps possible, ou à rester dans cette résidence Calypso.
Vous nous avez parlé de Calypso qui va devenir une résidence et non un EHPAD.
Oui.
Par contre, l'EHPAD Les Chênes Verts,
alors,
est-ce que réhabilitation actuellement, où alors, on pourrait venir pour cette année 2025, 2026, 2027?
Alors, pour l'instant,
c'est point d'interrogation.
La tendance irait vers la réhabilitation du site existant, avec peut-être une petite extension. On n'est encore pas... Il n'y a rien de bien défini, mais la tendance qu'on nous a préconisée hier, c'est bien celle-là.
Réhabilitation,
c'est une
à quel
réhabilitation du bâtiment entier, des chambres déjà.
Refaire toutes les chambres.
Comme c'était prévu, on va dire, dans le projet d'il y a 10-15 ans. Mais en moins, oui, mais en moins grande ampleur, c'est-à-dire que s'il y avait une extension, elle serait beaucoup moins. Il y aurait beaucoup moins de chambres, on va dire.
Extension pour quel public ? Toujours
alors,
un public dépendant ?
Alors oui, parce qu'on a,
ou
de, plus en, on a de plus en plus de personnes dépendantes. Donc c'était aussi demandé par les équipes et l'Agence régionale de santé, le département ont été dans d'autres sens. C'est-à-dire qu'on pourrait faire un PASA, c'est un pôle d'activité adapté justement pour les personnes atteintes d'Alzheimer ou maladies apparentées qui sont déambulantes et tout ça, ce serait un espace... C'est un espace fermé. Alors, c'est pas une prison, hein, attention.
Un espace fermé, on est bien d'accord.
Coup,
on l'a bien
dedans,
entendu.
Ils ont des activités, ils peuvent faire plein de choses, ils peuvent aussi faire la sieste, ils mangent ensemble. Enfin, et on a déjà, nous, du personnel formé depuis des années. Les équipes se sont formées et on a des infirmières formées pour faire ça. Donc, ce serait la tendance irait vers ça. Et voilà. Donc, on attend qu'on ait l'étude
définitive.
Enfin, on l'a l'étude, mais qu'elle nous soit restituée, on va dire, plus finement.
Réhabilitation voilà. À partir de quelle date ?
Ah bah alors ça, il faut retravailler sur le projet parce qu'il y a déjà une partie qui a été faite, mais du coup, les prix ont sûrement changé. Et puis, il faut aussi recontacter Vendée Habitat. On ne sait jamais, c'est eux qui sont le propriétaire des bâtiments.
Vendée Habitat est propriétaire
pas
des Chênes Verts.
Oui. Et nous, on est...
Donc, c'est eux qui financent ou c'est la mairie ou l'ARS ou le département ?
Non, c'est tout ce qui est projet.
Parce que c'est complexe tout de même. Hein,
projet structurel, comme c'est leur bâtiment, c'est eux qui financent.
C'est Vendée Habitat.
Ouais. Et après, donc, c'est sous forme d'emprunt de très longue. Souvent, c'est sur 50 ans. Là, par exemple, l'EHPAD Les Chênes Verts à 50 ans. Et on arrive à la fin des derniers emprunts de Vendée Habitat du projet initial. C'est-à-dire que le loyer est moindre, ils rajoutent juste les travaux qu'ils ont faits depuis. Mais du coup, on repartirait sur des gros emprunts s'ils repartaient avec nous.
C'est ce que j'allais vous poser comme question. Est-ce qu'ils vont repartir avec vous, Vendée Habitat ?
Il faut retravailler avec eux, on ne sait pas.
À première vue, il n'y a plus de sous non plus pour Vendée Habitat.
C'est pas du tout les mêmes financements que ce soit pour des maisons de retraite ou EHPAD que pour c'est pas du tout la même partie de voilà.
C'est complexe.
Plusieurs. Ah bah oui.
Et puis c'est les résidents aussi qui payent à la fin. Et c'est bien
une
ça
partie.
tout l'enjeu parce que on peut pas faire un truc bien sûr, moi j'aimerais bien un EHPAD avec plein de mètres carrés, super et tout. Mais qui c'est qui paye à la fin ?
Pour nous donner une autre idée, un résident ou une résidente paye combien actuellement ?
Alors, à ce jour, et j'ai vérifié les chiffres ce matin, c'est à peu près 67 et 68. Il y a à peine un euro d'écart entre les deux structures.
67 et 68 euros par jour.
Ouais, pour l'hébergement. Après, bien sûr, à ça se rajoute la dépendance et tout ça. Mais pour l'hébergement, c'est ça. Ce que paye le résident, oui.
C'est ça. Et puis, ce que je voulais rajouter, si tu peux me permettre, c'est aussi le projet initial, il va être retravaillé. Alors, quand on dit ça, on se dit, non, c'est pas possible. Les nombres de places est modifié. Oui. Par rapport au projet initial.
Le projet initial, c'était combien de places ?
Alors, là, on a...
Au Chênes Verts, on rappelle.
Alors, on a 104 places sur les deux établissements, d'accord ? On avait, en 2018, une autorisation de 95 places. Et aujourd'hui, on s'imagine un EHPAD à 80 places seulement. Pourquoi on fait ça ? Parce qu'actuellement, il y a 104 places, mais il n'y a que 82 résidents. Les gens restent de plus en plus à domicile. Donc, tout le projet qu'on avait imaginé au départ.
Il y a 15 ans, on l'appelle. Ce que vous nous disiez.
Mais en fait, il doit être modifié, il doit être repositionné. Et tout ça, ça change. Donc, forcément, il y a encore des études à faire, du travail à faire avec Vendéhabitat.
Ces études, ça vous coûte combien? Parce que ça fait combien?
Alors, non, c'est pas nous qui finançons ça, c'est bien Vendéhabitat, hein, bien sûr.
Vendéhabitat pour une partie d'études sur son bâtiment. Après, par exemple, l'étude qui a été faite là, c'est le département.
C'est très complexe à appréhender les EHPAD. On ne peut pas venir comme ça dire il n'y a qu'à Faucon. C'est très complexe à appréhender. Mais il faut plusieurs mois, voire plusieurs années. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Même les budgets sont difficiles à appréhender parce qu'il y a un budget.
Il y a plusieurs financeurs, comme vous me disiez, Anne-Claude.
Le soin, la dépense. D'ailleurs, ma précédente interview avec Nathalie Seulement, je me suis trompée. En disant que le département c'était juste l'hébergement, et en fait Nathalie a repris, c'est bien le département, la dépendance, et l'ARS c'est bien le soin. Oui. Donc toutes les autorités de tutelle ont des compétences bien spécifiques, et la mairie n'a pas compétence sur les EHPAD. Bien se le dire. La mairie ne peut pas faire grand chose par rapport aux EHPAD, ne peut pas subventionner les EHPAD, c'est interdit. On essaye d'aider comme ça, mais bon, c'est pas forcément ce qu'il faut faire dans la légalité.
Ouais.
Mais bon, bref, on le fait, mais c'est pas à hauteur de.
Les mairies ont le droit de subventionner les EHPAD ponctuellement et une fois, c'est-à-dire que. Imaginons que cette année, on mette, j'en sais rien, 500 000 euros parce qu'il y avait un besoin spécifique, on n'aurait pas le droit de le mettre l'année prochaine. C'est quelque chose qu'on n'a pas le droit. Ouais. Donc, il faut trouver d'autres moyens. Mettre des gens à disposition, par exemple.
Voilà, c'est
le CCAS et la mairie qui paie. Et ils sont mis à disposition des EHPAD, comme ça, ce n'est pas l'EHPAD qui emporte le coût. Mais ça, c'est pareil, normalement, on n'a pas le droit. Mais bon. Dès qu'on aura la restitution finale de l'étude que le département a faite, on reviendra vers d'abord les agents, les résidents et leurs proches pour leur restituer comme ça a été demandé et on l'a promis.
Après les personnes âgées, la jeunesse, Carole, aussi très important, la jeunesse sur Île-Dieu. Ouais. Il y a eu pas mal de choses de faites durant cette année 2024.
Oui, c'est vrai que la jeunesse, on est une île vraiment... jeune par rapport aux autres îles du Ponant, hein. C'est souvent les gens sont étonnés quand on dit qu'il y a un bateau spécial étudiant presque le vendredi soir, hein. On a une jeunesse assez active sur l'Île-Dieu et donc la mairie, ça fait plusieurs années, hein, que c'est le cas, investit tout le temps sur la jeunesse. Alors ça passe d'abord par des investissements humains, hein, d'abord on a des animateurs performants, qui ont des...
Combien d'animateurs, animatrices ?
Oh là, ça c'est une bonne question, je pense qu'on est au moins une vingtaine, et après on a
à s'occuper de ce public de tous les âges, de 0 à 18 ans, on peut dire ça comme ça.
0, alors oui, alors si on prend la crèche, c'est plus que ça, mais en tout cas, pour tout ce qui est animation jeunesse, il y a aussi beaucoup de saisonniers, hein, qu'on embauche pour l'été, pour occuper nos enfants pendant les vacances scolaires. Et donc, notre but, là, c'est d'amener les enfants vers le sport. Ça, c'est vraiment un axe fort. Et donc, on emploie maintenant des animateurs qui ont des diplômes tournés vers le sport pour que les enfants puissent faire du sport au maximum, même si les autres activités ne sont pas oubliées. Hein, voilà. Mais voilà, on privilégie le sport.
Vous nous avez parlé de sport, il y a eu un aménagement à la salle omnisports dernièrement.
Alors, il n'y en a pas eu qu'un.
De pump track, notamment.
Voilà, pump track, oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est un pump track? C'est un cheminement qui a des bosses et qui permet à tous les enfants, hein, à partir de 3 ans, je crois, de pouvoir rouler avec tout ce qui roule, hein, que ce soit des patins roulettes, des petites trottinettes, du vélo, bien sûr.
Bien sûr.
Mais pas que. Donc, ça permet aux tout petits de faire du sport. Et c'était aussi, le but, c'était de désengorger le skate park qui est juste en face, parce que quand il n'y avait pas le pump track, il y avait beaucoup de conflits. Disons que les grands respectaient les petits, hein, y a pas eu d'accident, mais il y avait beaucoup de monde sur ce skatepark. Donc on a fait ce pump track pour désengorger le skatepark et il y a eu un succès monstre. Enfin, il y a tout le temps des enfants dessus.
De nouveaux aménagements pour l'année 2025 ?
Alors,
envers les jeunes ?
Oui, on a eu aussi... moi, je reviens aussi sur l'année 2024, hein, qui a été riche en investissement au niveau des jeunes. C'est des aires de jeu dans le Bois des Coucous. Et puis
avec une tyrolienne notamment.
Ben oui, c'est super. Moi, j'aimerais bien être à avoir.
Est-ce que vous l'avez testé?
Non, ben non, j'ai pas osé.
non plus.
Malheureusement. Et donc voilà, une aire de jeu devant le Bois des Coucous. Il y a aussi une aire de jeu avec un beau bateau pirate à côté du cimetière. Et il y a aussi un espace de sport. Un toboggan qui est juste en face du terrain Muslisport, aussi du terrain de la piscine pour les plus petits. Et puis, il y a aussi un workout. Alors, qu'est-ce que c'est, ça aussi? C'est un mot barbare. C'est en fait des bars qui sont disposés juste à côté du pump track, à côté de la piste, l'ancienne piste d'athlétisme, et qui permet aux gens de faire du sport, tout simplement,
de se muscler.
Voilà, de se muscler. Et ça, c'est plutôt chouette. Et c'est très apprécié aussi des sportifs. Pour 2025, on a l'objet, enfin, je pense qu'on va faire un panier de basket qui, pour jouer à trois. Alors, je suis pas spécialiste en la matière, mais ils vont positionner les paniers de basket de façon à ce qu'on puisse jouer à trois. Comme dans les Jeux Olympiques, apparemment, il y a une discipline sportive du basket à trois.
Basket à trois, c'est prévu sur l'île-Dieu. À partir de quelle date?
En 2025. Par contre, j'ai pas de date précise, mais en 2025. Et puis aussi, on a des poteaux de rugby qui vont être mis sur la piste d'athlétisme. Comme ça permettra au rugbyman ou rugbywoman, parce qu'il y a aussi des... Et puis des tout-petits aussi qui jouent au rugby, de pouvoir jouer tout le long de l'année.
Avez-vous prévu d'agrandir l'école du Ponant ?
Oui, ça c'est un gros projet qui va commencer en 2025. Alors pourquoi on fait cet agrandissement ? Parce que surtout au niveau du périscolaire, on accueille actuellement plus de 80 enfants chaque soir, donc c'est énorme. Donc on se répartit tant bien que mal dans une grande salle, mais c'est vraiment trop petit. Et puis le réfectoire est dans dans la future bibliothèque de l'école du Ponant, parce que l'école du Ponant, même s'il y aura un pôle culturel qui aura sa propre bibliothèque, l'école du Ponant, il y aura aussi une petite bibliothèque dans une classe. Donc
oui, car la bibliothèque à l'école du Ponant est fermée actuellement.
Oui. En fait, il y en a une, mais dans le hall. Et franchement, elle est toute petite, elle n'est pas du tout adaptée. Donc là, il y a le réfectoire en ce moment dans cette ancienne ou future bibliothèque. Et on va construire un nouveau réfectoire qui pourra accueillir plus de 100 élèves. On essaye de faire ça dans les normes, bien sûr. On fera ça aux normes et que les enfants puissent manger au calme, surtout.
Nouvelle salle de classe également ou pas ?
Alors, une nouvelle salle de classe, une nouvelle salle aussi d'art plastique.
Supprimer le préfabriqué ?
Alors, le préfabriqué est déjà parti. Le modulaire est déjà parti en 2024, ce qui a donné de l'air au niveau de la cour, hein, vraiment. On va pouvoir faire des aménagements au niveau de la revégétalisation de la cour. Ça va être apprécié par les élèves et par les enseignants qui sont demandeurs vraiment de cette revégétalisation.
Carole Charot, on vient un petit peu sur les personnes âgées. Le pôle solidarité rue Clémenceau va-t-il voir le jour ?
Alors,
avant de se dire au revoir.
Comme on l'avait dit l'année dernière, on n'a pas pu trouver de solution pour amoindrir le coût qui avait été fixé par les entreprises. L'avant-projet définitif disait 3,6 millions et en fait on est rendu à plus de 4 millions, je crois. Enfin bref, même plus que ça.
Vous explosez le budget,
on
pour faire simple.
Ouais, c'était multiplié par deux, donc c'était pas possible. Donc on arrête le projet de pôle de solidarité, mais par contre, on va se pencher sur une nouvelle crèche, parce que c'est surtout ça qui n'était pas aux normes, pour que les agents qui travaillent dans la crèche puissent... souffler un peu, parce que là, franchement, ils ont des conditions de travail pas trop faciles.
La crèche actuellement se trouve rue Calypso.
Oui, et puis on va augmenter le nombre de places aussi au niveau de la crèche.
Parce que vous avez beaucoup de demandes ?
On a des demandes, bien sûr qu'on a des demandes. On a des nouveaux arrivants, donc il y a aussi... Alors, il n'y a pas que des personnes...
Ils arrivent à se loger, ces nouveaux habitants ?
Oui. Oui. Écoutez, on va faire une cérémonie des vœux fin janvier, et on a identifié 80 nouveaux arrivants en 2024 Bon, bien sûr, il y a des personnes qui n'ont plus d'enfants, mais il y en a aussi qui ont 2-3 enfants. Donc, ça remplit les écoles et on est bien contents.
Cette nouvelle crèche va voir le jour quand ?
Oh là ! Alors là, on repart sur un autre projet avec des études, etc. Donc, là aussi, je ne dirai pas de date.
2030,
2031 Non, non, bah non, j'espère que ça sera avant parce que... Ouais. Non, non, il faut parce que Anne-Claude, voilà, hoche de la tête parce qu'elle, elle a suivi le pôle de solidarité depuis tellement d'années.
Depuis combien de temps, Anne-Claude Cabic ?
Ah, le pôle de solidarité, on a commencé à travailler au premier mandat. Donc, ça fait bien 6-7 ans qu'on a commencé avec Anne-Laure à travailler dessus. Parce que d'abord, on était parti aussi pour acheter de l'existant, pour faire qu'une crèche. Et après, on est parti sur ce projet-là. Le terrain a été acheté. Enfin, voilà. Puis maintenant, moi, je pense surtout aux équipes de la crèche, à Anne-Laure et ses équipes. Je voudrais vraiment les remercier quand même pour le travail qu'elles font auprès des tout-petits. C'est pas facile parce que les locaux ne sont plus adaptés. Juste un exemple, le chauffage est au plafond, alors qu'elles travaillent avec des petits. Elles n'ont pas de salle de pause. Ça se fait dans on va dire, la salle qui sert pour les repas. Donc, les filles sont assises sur des petites chaises. Enfin,
les conditions de travail ne sont
ouais,
pas...
Non, mais par contre, elles ont toujours le sourire. Et avec les enfants, ça se passe très bien. Donc, je les remercie énormément.
Le terrain où devait avoir ce pôle solidarité va devenir quoi ?
Ah non, mais je pense que la crèche je vais aller là-bas. Moi, je pense.
La crèche,
c'est pas remise en cause parce que là, on a tout fait. On a même refait les trottoirs, tout ça pour la crèche. Donc, bon, j'espère que la crèche sera là-bas.
On aura le temps d'en reparler sur cette antenne. Anne-Claude Cabic, première adjointe à la mairie de Lille-Dieu, un dernier mot avant de te dire au revoir.
Eh bien, écoutez, je veux encore souhaiter mes meilleurs voeux à tout le monde, hein, bien sûr. Hein. Et puis. Plus particulièrement à mes personnes âgées que j'adore. voilà, une bonne santé et puis en espérant que tout se passe bien cette année et qu'on puisse mettre plein de projets à l'honneur.
Carole Charo, maire de Lille-Dieu, un dernier mot avant de te dire au revoir.
Oui, moi aussi je renouvelle mes voeux de bonne année, de bonne santé surtout et de la sérénité, beaucoup de sérénité.
Merci à vous deux d'être venus sur Neptune FM. À très bientôt.